Et mon point de départ, c'est à représenter par une page singulière et de prime abord quelque peu énigmatique qui se trouve à la fin du monde naturel de la phénologie, pas tout cas en 1967. Singulière pour la critique qui s'y exprime en des termes assez forts envers Heidegger et son idée d'un destin de l'être, alors que quelques années plus tard, les essais éthiques s'ouvriront par la reconnaissance explicitement placée dans le visage de Heidegger de l'historicité de la manifestation. Singulière aussi pour l'enchevêtrement thématique qu'elle suggère entre la naturalité de l'être humain, l'objectivation et l'histoire. Après avoir déployé tout au long du texte sa description du monde naturel, qui se concrétise dans la théorie des trois mouvements de l'existence, Patochka revient à la fin sur le rapport de ses analyses avec celle de Husserl et Heidegger. Si Husserl a justement mis en lumière la priorité phénoménologique du monde de la vie par rapport aux constructions objectivantes de la science, et s'il a posé le problème même de l'objectivation et de la crise de sens à laquelle on conduit, il revient à Heidegger, pour Patochka, d'avoir mis au centre de son analyse le mouvement de l'existence, et en particulier, c'est une citation, le mouvement de dessaisissement par le prolongement de soi et le mouvement de reconquête de soi par le dévouement. Terme par lequel Patochka se réfère ici à ce qui constitue, dans son analyse, le deuxième et le troisième mouvement de l'existence et qui peuvent correspondre à peu près à l'inauthenticité et à l'authenticité heideggérienne. Patochka marque cependant son écart aussi vis-à-vis de la perspective heideggérienne en soulignant que, aux yeux d'Heidegger, ces mouvements forment une antithèse aiguë sans médiation possible, correspondant à deux conceptions foncièrement différentes de l'être et de l'étendre, qui ne sont pas, pour Heidegger, dit Patochka, une œuvre humaine, mais un mode préalable d'ouverture dans lequel l'homme doit toujours s'émouvoir. Et Patochka d'ajouter, par une marque significative qui est surexemplée, Heidegger ne voit donc pas dans la métaphysique de l'objectivation une simple auto-interprétation inexacte car incomplète de la vie, mais un destin métaphysique spécifique dont nous sommes devenus victimes et dont il nous faudra essuyer les périls. Patochka résume enfin le double creux husserlien et heideggérien qu'il a essayé d'éviter en affirmant qu'il faut se garder, je cite, de verser ou dans le subjectivisme qui croit apercevoir l'absolu même au fond de l'homme, c'est Husserl, ou dans le rationalisme d'un être préalable qui tiendrait le sens de l'humanité à sa merci. Fin de la citation. Si l'accusation d'irrationalisme adressée à Heidegger me paraît, même dans sa lettre, inadéquate, je pourrais souligner ce qu'il y a de plus productif dans cette critique de Patochka, à savoir l'indétermination de laquelle risque de demeurer l'histoire de l'être et, par conséquent, son incapacité à rendre compte des futurs dérivés de l'expérience, comme c'est le cas pour les primats de l'objectivation. En effet, écrit Patochka, et c'est sur l'excellent pied, tout en soulignant, c'est le point auquel je voulais arriver dans cette introduction, tout en soulignant les caractères indispensables du mouvement de dessaisissement, Heidegger n'examine pas le fondement dernier de cette nécessité, la corporité, la naturalité de l'être humain. Husserl, avec ses analyses du corps et du mouvement corporel, était bien plus près de dévoiler cet aspect. Alors, ces affirmations m'appellent deux remarques. En premier lieu, Patochka semble ici vouloir garder une explication des mouvements profonds de l'histoire, y inclut le primat de l'objectivation ou, dans le langage heideggérien, l'oubli de l'être qui culmine dans le Gestell, une explication de l'histoire qui correspond au rôle de l'existence, à ses mouvements et auto-interprétations, et qui ne se contente pas d'évoquer un destin de l'être par rapport auquel nous serions foncièrement passifs. C'est sans doute cette volonté qui explique l'usage du terme irrationalisme référé à l'être d'Heidegger, un être préalable qui entraîne le sens de l'humanité à sa merci. En deuxième lieu, il nous reste évidemment d'expliciter davantage la remarque de Patochka, selon laquelle le fondement de la nécessité de l'objectivation, il faut entendre par là, au sens le plus large, les formes de réification et d'inauthenticité de l'existence et de son histoire, ce fondement est le corps et la naturalité, l'aspect naturel de l'existence humaine. Comment faut-il entendre cette affirmation? À quoi renvoie-t-elle plus précisément? À quoi, par fait référence à la fin de ce texte, sans l'expliciter là davantage? Répondre à cette question requiert de prendre en compte ce qui constitue un principe de fond de toute l'analyse parfaitienne de l'existence et encore plus de sa philosophie de l'histoire, principe dont on ne saurait surestimer l'importance. La tendance de la vie, c'est-à-dire de la composante vitale de l'existence, consiste à poursuivre sa propre conservation et reproduction. C'est cette tendance instinctive et vitale, inscrite au plus profond de l'existence, qui rend très raison du fait que celle-ci s'oublie elle-même et oublie, voire recouvre, l'élan de sa propre historicité. C'est donc un autre type de généalogie de l'expérience et d'interprétation de l'historicité, bien différente de celle de Hegel, qui serait ainsi en jeu. Je passe ainsi à la deuxième partie de mon exposé, le cercle de la vie dans le cercle de l'existence et le sens du travail. Pour comprendre vraiment ce principe de la philosophie de l'histoire patrickienne, il faut cependant faire un pas en arrière vers la théorie des trois mouvements de l'existence, telle qu'elle est exposée d'abord sur le plan d'une analyse structurelle de l'expérience du monde, avant qu'elle ne soit transposée sur le plan d'une philosophie de l'histoire dans les essais éthiques. L'une des caractéristiques décisives de l'analyse de Patochka, et qui marque un écart essentiel par rapport à celle d'Heidegger, est représentée précisément par le rôle qu'elle attribue à la vie dans les mouvements de l'existence. À la vie, c'est-à-dire à ce qu'on pourrait indiquer, faute de mieux, comme la composante ou la tendance vitale de l'existence en tant que mouvement dans le monde. Tous les mouvements de l'existence recèlent en effet en soi une composante vitale qui les traverse. Et c'est Patochka lui-même qui énonce d'un point de vue général cette inscription, dans un passage qui pose du même coup le sens du mouvement vital. Je cite, c'est sur l'exemplier, « Le cercle de l'existence, existé en vue de soi-même, en vue du monde de son être, contient toujours d'une certaine façon le cercle de la vie qui accomplit les fonctions vitales afin de faire retour en elle-même et de revenir à elle-même. Le rôle constitutif de la vie en l'homme s'effondre avant tout dans une certaine description de la corporité qui détermine l'orientation perspective du rapport entre l'homme et le monde, non seulement en tant que corporité perceptive et pratique, mais aussi en tant que vitale. Et Patochka écrit, la corporité est également une orientation dans ceci, que le corps, par ses besoins, fait que la vie se prend elle-même pour fin et se sert des objectivités comme des moyens en vue de cette fin qu'elle est à elle-même. Le corps est aussi le lieu des besoins, et ce lien ne représente pas une caractéristique parmi d'autres, mais la finalité immanente à la vie elle-même. Parce que le but du mouvement vital, du Patochka, c'est la vie corporelle elle-même, sa reproduction, sa continuation individuelle. Donc, pour Patochka, le but qui définit la vie elle-même, c'est la recherche de sa propre continuation et reproduction. Ce rôle de la vie se manifeste d'abord dans les premiers mouvements, les mouvements d'enracinement, par lesquels l'existence s'ancre dans le monde, dans son rapport avant tout passif et sensible à celui-ci, et en étant inconnu par les autres. En articulant ces différents aspects, Patochka définit ces mouvements aussi comme les mouvements de la vie instinctive. Il s'agit en effet du mouvement des besoins vitaux, dans lesquels nous sommes dominés par la puissance cosmique de la Terre, qui nous enchaîne à la satisfaction de ces besoins dans leur rythme cyclique. Le premier mouvement, avec son cycle vital et instinctif dominé par la Terre, précède déjà en soi les présupposés du deuxième mouvement. La dimension vitale de l'existence se manifeste en effet aussi et surtout dans le deuxième mouvement, dans lequel la vie est amenée à satisfaire ses besoins par cette activité fondamentale qu'est le travail, qui caractérise essentiellement cette dimension de l'existence. Tandis que dans le premier mouvement, la vie cherche un plaisir, une satisfaction immédiate, le travail permet de poursuivre la satisfaction des besoins des personnes organisées, structurées, différées, et par lui, l'existence se prolonge et s'en sert dans son propre environnement, en le transformant et en l'organisant. Mais le point fondamental qu'il faut souligner concerne le sens et la fin qui, pour Patochka, définissent le travail comme tel. L'homme étant exposé comme tout vivant à une autoconsommation permanente, le trait fondamental du travail, du Patochka, c'est sur l'exemple, est l'enchaînement de la vie elle-même, la nécessité physique d'exister de telle manière que la vie est consacrée au service de la vie, à pouvoir, aux besoins de la vie. L'enchaînement de la vie elle-même, c'est une expression qui reviendra à plusieurs reprises. Donc, autrement dit, le sens du travail est, pour Patrushka, celui d'être finalisé à la conservation, reproduction et transmission de la vie en tant que corporel et fini. Et donc, là, il s'écarte de d'autres conceptions du travail de type hegélienne ou marxiste. En tant que monde du travail, le deuxième mouvement entraîne une purification de l'existence elle-même et ses rapports aux choses aux autres. En effet, par le travail, l'existence satisfait ses besoins en façonnant son propre monde ambiant, en créant un monde artificiel, un réseau de rapports fonctionnels dans lesquels chacun de nous s'en sert. Ce mouvement est donc, comme Patrushka le nomme aussi, mouvement de prolongement de soi. La vie se prolonge dans son propre milieu et dans les choses qu'elle rencontre, en les façonnant et en les transformant en moyens pratiques pour la satisfaction de ses exigences. Mais, et c'est là une autre caractéristique fondamentale de ce mouvement, je cite Patrushka, je crois que c'est sur l'exemple, lors de la préoccupation dans laquelle l'homme pourvoit aux besoins, dans laquelle l'homme assume un rôle et s'identifie au rôle qu'on remplit, est étroitement corrélatif au présent, aux données et à la chosification. Donc, le deuxième mouvement de l'existence va de pair avec un primat du présent, ce qui, dans le sillage des analyses d'Heidegger, implique, ou pas jusqu'à aussi, une chosification, une réification, un recouvrement du sens plein de l'expérience, une forme d'inauthenticité, et représente la condition temporelle ontologique pour toute objectivation. Comme Patrushka lui-même l'affirme, le domaine du travail et de ses prestations, domaine où nous sommes interchangeables, est pour cette raison le domaine du présent, de la fonction et du rôle. Chaque mouvement de l'existence étant aussi une certaine configuration du rapport à l'autre et à l'intersubjectivité, cette appréciation se reflète, pour Patrushka, aussi dans les rapports intersubjectifs et sociaux. Dans le monde du travail, nous sommes figés et objectivés dans nos rôles respectifs, et les autres sont pour moi soit des collaborateurs, soit des obstacles. Aussi, les rapports humains sont-ils ici marqués par l'anonymat, traversés par l'opposition d'individus atomisés et objectivés. C'est pourquoi Patrushka peut poser la lutte, la stricte corrélation avec le travail, comme l'autre aspect fondamental de ce mouvement. Cette lutte dans laquelle l'écrit s'affronte aux hommes comme virtuellement asservis ou asservisseurs. Alors, comme je l'avais rappelé, la motivation fondamentale qui anime le deuxième mouvement de l'existence et donc aussi le travail est, pour Patrushka, l'enchaînement de la motivation vitale, à savoir l'enchaînement de la vie elle-même qui recherche sa propre conservation et reproduction. C'est ce que Patrushka lui-même ne manque pas de rappeler à la fin de l'exposition du deuxième mouvement dans la méditation sur le monde naturel, dans un passage significatif, puisqu'il laisse transparaître l'une des tendances qui parcourt les textes de Patrushka à ce sujet, à savoir la tendance, sinon à substantialiser, du moins à élever cette tendance vitale au statut d'un principe impersonnel, la vie, qui dépasse et domine l'homme, quoique, dans les textes en question, dans le registre d'un concile. Après avoir rappelé la configuration des rapports sociaux dans le deuxième mouvement et les rôles de la lutte, Patrushka écrit, c'est sur l'exemple, la communauté avec les choses, la pénétration en dedans des choses, apparaît à la fois comme chemin de la modification et de la formation de l'homme par lui-même. Comme si l'homme était l'œuvre de la pression primordiale, que c'est celui l'enchaînement de la vie elle-même, avec la possibilité qui s'ensuit de l'utilisation de l'homme par l'homme. Et Patrushka esquissait, dans la suite de ce passage, une hypothèse quant à la contemporanéité qui prendra tout son sens dans les essais éthiques, comme si les efforts communs des hommes donnaient forme à un corps socio-naturel toujours plus complexe, à une sorte d'organisme sur-organique qui fournit précisément le cadre de ces mouvements dans sa phase actuelle. Remarquons la formule paradoxale et presque oxymoïque « un corps socio-naturel » qui exprime bien l'idée de Patrushka. La vie biologique se prolonge dans les corps sociaux et artificiels. qui peut ainsi apparaître comme un organisme sur-organique. C'est l'autre expression du texte. Alors, je ne peux pas m'arrêter sur ces points, mais je voudrais au moins rappeler une influence décisive qui a sans aucun doute contribué à forger la position de Patrushka à ce sujet, à propos de la question du travail et de son lien avec la vie, c'est-à-dire Hannah Arendt avec la condition de l'homme moderne, troisième chapitre consacré au travail, et Hannah Arendt qui expose justement une conception du travail strictement liée à la finalité vitale, et tout le chapitre d'Hannah Arendt est, déclaré explicitement dès le début, une polémique avec le marxisme. Hannah Arendt que Patrushka cite et reprend explicitement dans son compte, si vous avez les essais éthiques. Et entre autres choses, Patrushka reprend explicitement cette idée à son compte. L'originalité de Patrushka, entre autres choses, sera celle de transposer sa propre théorie des mouvements de l'existence et donc aussi cette idée de Hannah Arendt sur le plan d'une philosophie de l'histoire dans les essais éthiques. Et c'est justement vers cette philosophie de l'histoire que je vais maintenant me tourner. C'est la troisième partie de mon exposé. Essor, déclin et vie dans l'histoire. Toute la philosophie de l'histoire de Patrushka me semble, au fond, en voulant un peu simplifier, rester fidèle à un principe qui a été en fait énoncé très tôt, puisqu'on en trouve, par exemple, une formulation très claire dans un manuscrit du début des années 40. L'idée, c'est que le mouvement de l'histoire est, en son fond, déterminé par les rythmes d'essor et déclin de la sphère de l'âme humaine. Je cite, et c'est sur l'exemplier, c'est un manuscrit de 1940 à Lyon, « La loi unitaire du développement et du déclin des cultures est une impasse de l'interprétation, un pis-aller dans lequel on se réfugie, là où fait défaut toute clé du phénomène de l'essor et du déclin de l'histoire. Ce phénomène, l'un des plus importants de l'histoire, est à comprendre à partir des profondeurs de l'être humain, comme conditionné par l'essor et le déclin dans la sphère de l'esprit même. L'essor et le déclin dans l'histoire sont une conséquence de l'essor et du déclin au niveau des événements les plus intimes de l'intériorité humaine. » Donc, remarquons que ce principe implique deux éléments. En premier lieu, l'histoire est marquée essentiellement par un mouvement rythmique, une alternance de essor et déclin, des élans et des cadences. Et en deuxième lieu, ce rythme d'essor et déclin de l'histoire s'enracine pour Patrushka dans celui correspondant de l'âme humaine ou de l'existence. Or, malgré toute l'évolution postérieure et malgré la radicalisation assujettive de la phénoménologie opérée à partir des années 60, ce principe n'aura de cesse de guider toutes les analyses historiques de Patrushka jusqu'à la fin, car l'histoire des essais éthiques est rythmée exactement par ces mouvements d'essor et déclin de l'existence humaine. Mais à ces deux éléments, alternance d'essor et déclin et enracinement de l'existence, il faut en ajouter un troisième, puisque ces mouvements d'essor et déclin reçoivent une interprétation encore plus déterminée dans les derniers textes de Patrushka. On en trouve la formulation peut-être la plus claire, explicite et directe dans un séminaire de 1972 intitulé « Christianisme et monde naturel ». Je cite, c'est sur l'exemplier, « Je pense que l'histoire, au sens propre du terme, est toujours l'histoire d'un certain redressement de l'homme au-dessus de son niveau biologique. Et cette élévation est en même temps une lutte contre toutes les menaces auxquelles l'homme est exposé, et qui plane sur lui à partir de son fondement biologique et de ses propres créations historiques, qui, en effet, ouvrent toujours des nouvelles possibilités de décadence au-dessous du niveau de liberté originellement atteint. Donc, l'existence renfermant le cycle de la vie, comme on a vu, qui vise sa propre conservation et reproduction, son rythme historique de déclin et d'essor est déterminé par l'effet de rester enlisé à ce niveau simplement vital ou par la capacité de s'élever au-dessus de celui-ci. La priorité ou la subordination de la vie détermine le déclin et l'essor de l'existence, donc aussi le fait que celle-ci se maintienne dans une situation préhistorique ou qu'elle accède à l'histoire, où il faut bien préciser que toute l'âme historique reste constamment sous la menace d'une retombée de l'état vital et consiste avant tout et précisément dans une lutte contre cette menace. Ce principe commande alors une partie essentielle des analyses théoriques, qui consiste avant tout dans une transposition audacieuse de la théorie des trois mouvements sur le plan historique. Comme on le sait, les deux premiers C distinguent le monde préhistorique, à savoir l'humanité des grandes civilisations antérieures à la police grecque, de l'existence historique proprement dite. Ce qui caractérise l'existence préhistorique, au sens de Pachka, est le fait de vivre de l'acceptation d'un sens non problématique. C'est le monde mythe antérieur à la découverte de la problématicité et à toute interrogation sur la manifestation du monde. Ce monde est caractérisé par un primat des deux premiers mouvements de l'existence. Mais dans l'analyse de Pachka, cela est alors inséparable d'un autre aspect. Le monde préhistorique est dominé par la préoccupation de la vie pour la vie. Les grandes civilisations antérieures à la police grecque sont, dit Pachka, comme des maisonnées monumentales vouées à la défense de la vie contre les menaces, à la recherche de l'assurance pour la vie et de sa reproduction pour des générations. Il s'ensuit que le trait fondamental de cette existence, dit Pachka, est le projet des vies de la vie nue, de la vie pour la vie. Là sont un peu les deux expressions qui reviennent, la vie enchaînée elle-même et la vie nue. Et donc, ce monde préhistorique est aussi le monde du travail et de l'effort. Parce que pour Pachka, le travail apparaît comme un facteur non seulement inhistorique, mais qui s'oppose à l'histoire. Puisque, je cite, mieux qu'aucun autre facteur pendant longtemps, c'est le travail qui a maintenu l'homme dans le cadre du projet de vie, de la vie nue, de la vie pour la vie. Comme le troisième mouvement de l'existence en général, l'entrée dans l'histoire implique par conséquent un premier moment négatif, un moment de rupture ou un revirement par rapport à ce projet de la vie. L'humanité n'entre proprement dans l'histoire qu'au moment où elle est capable de s'ouvrir la problématicité et donc de s'élever au-dessus de ce projet de la simple conservation vitale. Et cela a lieu avec la naissance conjointe de la philosophie et de la politique de la police grecque. En résumant tous les sens de l'analyse qu'il avait conduite dans les premiers chapitres des essais éthiques, dans les textes Le schéma de l'histoire, Pachka marque clairement le lien entre ces éléments. Je cite, vous l'avez, « Il n'y aura de l'histoire qu'aussi longtemps qu'il y aura des hommes qui ne se contenteront pas simplement de vivre, qui sont au contraire prêts à renoncer à la vie nue pour poser et défendre les fondations d'une communauté et la reconnaissance mutuelle. Ce qui reçoit là un fondement n'est pas la subsistance assurée, mais la liberté, c'est-à-dire les possibilités qui s'élèvent au-dessus du plan de la vie pure et simple. C'est cette alternative donc qui, pour Pachka, constitue le véritable enjeu de l'histoire, voire qui définit l'histoire elle-même. Je passe à la quatrième partie de mon exposé, le projet de la vie nue dans la contemporanéité. Si l'histoire est rythmée par une alternance de sort et de clem, et si même l'élévation à un niveau historique reste une lutte contre la possibilité toujours menaçante d'une retombée, on ne sera pas étonné du fait que cette problématique du fond vital ne se cantonne pas au moment de la naissance de l'histoire sur le fond de la préhistoire, et qu'elle revienne au contraire comme un tel dans les époques suivantes, et notamment de la contemporanéité. C'est précisément par rapport à la contemporanéité que ce paradigme interprétatif de Pachka trouve ses mises en œuvre les plus puissantes. Le primat du projet de la vie nue prend ici deux formes, la domination de la technique et la guerre. Et dans les deux cas, il faudra remarquer que ce concept de vie tend à prendre de nouvelles formes dans les analyses de Pachka et qui se lie de façon autant paradoxale qu'essentielle à ses contraires. Je m'intéresse à rappeler à propos de ces deux problèmes ce qui permet de les relier à mon thème. Donc, d'abord, la technique. Dans les essais éthiques, après avoir rappelé l'empire de la technique dans tout aspect de notre existence et de notre rapport au monde, Pachka en explicite, la conséquence, à savoir que la réalité devient un immense réservoir de forces à exploiter, dans lequel l'homme lui-même se trouve annexé comme un accumulateur et un relais. Alors, la thèse de Pachka, je résume, reviennent à affirmer que l'immense cycle de production, d'exploitation et consommation auquel conduit la domination de la technique, et qui se rapporte à toute réalité de la perspective de l'énergie et de la force, peut être vu comme la manifestation extrême du primat des impératifs vitaux, ou comme l'élargissement à l'échelle planétaire du cycle vital du travail et de la consommation. C'est la thèse que formule ce passage significatif du troisième essai qui en tire la conséquence quant au sens général du mouvement historique européen. Je cite de l'exemplier, « Tous les mouvements de l'histoire, après tous les élans vers un sens absolu, semblent ainsi déboucher là où il commença autrefois, dans l'enchaînement de la vie, à son autoconsommation et au travail comme moyen fondamental de son entretien. » La contemporanéité s'est ainsi marquée par une sorte de retour à une condition préhistorique de subordination de toute autre scène au cycle vital. À ceci près, mais c'est évidemment décisif, que l'homme préhistorique vivait de l'assurance d'un sens accepté, alors que l'homme contemporain est marqué par le nihilisme d'une disparition du sens, et que le cycle vital se réalise désormais à l'échelle planétaire de la forme artificialisée d'un mince réseau technique. Cette sorte de retour à une forme de préhistoire peut aller dans les textes de Patrushka jusqu'à prendre la forme d'une fin de l'histoire. Dans les séminaires que j'avais déjà cités sur christianisme et monde naturel, Patrushka insiste sur cette antithèse biologique de l'histoire, en soulignant qu'à l'époque actuelle, la compréhension dominante de la réalité tend à nouveau à se centrer autour de l'autoconsommation de la vie. Et Patrushka dénonçait alors, dans la forme la plus claire, l'interrogation décisive, je cite sur l'exemplier, comment se fait-il que l'homme, sorti du stade préhistorique, revienne, après avoir traversé le processus de l'histoire, à un état qui ressemble au niveau biologique? Et dans les débats qui suivent cette conférence, un intervenant demande à Patrushka s'il est possible d'établir un lien entre les risques d'une fin de l'histoire auquel il a fait allusion, et les conceptions chrétiennes, notamment eschatologiques, d'une fin de l'histoire. Patrushka oppose une fin de non-recevoir à ce rapprochement, mais il le fait en utilisant à son tour l'expression « fin de l'histoire ». Et Patrushka dit « la fin de l'histoire dont j'ai parlé n'a rien en commun avec celle chrétienne », puisqu'elle suppose le cadre théorique d'une autre philosophie de l'histoire. Donc, cette fin de l'histoire, ou pourrait-on dire peut-être plus proprement cette post-histoire, n'a donc pas le sens d'une fin eschatologique des temps à un sens chrétien. Elle ne correspond pas non plus à ce que l'on pourrait envisager dans le cadre d'une métaphysique théologique de l'histoire, comme celle d'Hegel, où la fin de l'histoire indiquerait le plein accomplissement d'un telos qui guide et oriente l'histoire. Accomplissement qui aurait lieu à travers et par un parcours cumulatif qui intériorise et récapitule ses propres états. Si l'histoire décrite par Patrushka a bien un sens et une direction de fond, à savoir la découverte et la tentative de réaliser la responsabilité humaine face à un sens problématique, ce sens ne se récapitule pas. Et en pris dans un rythme d'essor et déclin, étant toujours sous la menace que son essor redevienne en déclin. La fin de l'histoire dont il est question, si tant est que le terme convienne, indique plutôt la consomption de tout élan historique, de toute quête du sens, et le risque d'un annihilement peut-être définitif dans un stade de pure conservation de la vie qui pourrait rappeler celui de la préhistoire, mais sans distinguer par son fond nihiliste. Quoi qu'il en soit de cette question, il faut pas y remarquer que c'est en ces points que se situe l'une des différences entre Patrushka et Heidegger concernant l'interprétation de la technique, malgré une très grande proximité. Et c'est ici que nous pouvons aussi mieux comprendre la critique Heidegger dans les passages de 1967 qui avait constitué mon point de départ. Sans doute peut-on remarquer dans les textes des années suivantes un rapprochement à Heidegger, puisque Patrushka reprend à son compte les concepts heideggeriens de Gestalt, comme la forme contemporaine du dévoilement sous la domination de la technique. N'en demeure pas moins que Patrushka voit la racine de la vision technique de la réalité dans la tendance de l'existence à se soumettre à l'impératif de la conservation et reproduction vitale, ou inversement, peut-être plus proprement, de la tendance du mouvement vital à s'emparer de l'ensemble de l'existence et à assimiler à soi notre compréhension du monde. C'est de l'ajustement de cette finalité vitale à modalité unique universelle de notre rapport à la vérité, à horizon exclusif de notre histoire, qui est, ou pas tout cas, la matrice du Pechtel. Et c'est pourquoi Pachka peut écrire dans les séminaires sur la technique que, en mélangeant Heidegger et soi-même, l'emprise du Gestell s'exerce sur notre vie à travers les liens qui nous enchaînent à la vie. La vie, c'est donc ici la technique comme, fin de la citation, la vie, c'est donc ici la technique comme moyen pour la réalisation de ces fins. Ou, pour le dire autrement, expliciter ainsi l'autre aspect fondamental de cette analyse, dans un renversement paradoxal, ce qui est le plus naturel à nous, la vie, s'extrinsèque de la plus grande artificialité par la création de ce corps inorganique qu'est la technique. Il n'en demeure pas moins que la thématique de la vie, transposée sur ce plan épocal et planétaire, et de l'interaction avec la notion de l'univers universel, assume ici une nouvelle figure. Plutôt, elle se double d'un autre concept, celui de force, souvent avec un grand F, au moins dans la traduction. Ce qui caractérise l'époque technique du Pachka, c'est la compréhension du monde comme force, voire une métaphysique de la force, la force comme le plus extrême retrait de l'être. Remarquons que le champ sémantique de la force est au moins apparenté à celui de la vie, et que cette même notion de force se trouve également au centre de la deuxième figure de la contemporanéité que j'avais annoncée et de laquelle je vais me tourner, à savoir la guerre. Parce qu'en effet, l'autre forme que le projet de la vie enchaînée à elle-même assume de la lecture pathologique de la contemporanité est celle du climat de la guerre. J'ai fait évidemment ici référence au sixième essai hérétique intitulé « Le XXe siècle comme guerre », « Les guerres du XXe siècle et le XXe siècle comme guerre ». Je vais juste rappeler rapidement quatre traits de cette analyse commune de Pachka qui me permettent de la relier à mon thème. En premier lieu, là je vais être un peu rapide, en premier lieu, le recours à la guerre jusqu'à son déchaînement dans le XXe siècle à un niveau planétaire est, en particulier, la manifestation la plus puissante et inquiétante de cet enchaînement de la vie elle-même et de sa volonté de se reproduire. La guerre est le moyen auquel la vie menacée a recours pour se défendre et ainsi assurer sa propre continuation dans les époques de paix. Donc, la guerre, c'est ce qui anime cette expansion de la guerre, c'est en réalité, en particulier, la finalité vitale de se conserver et reproduire. En deuxième lieu, et comme stricte conséquence de ces premiers, le souci pour la vie comme horizon indépassable de toute politique se renverse étonnamment dans un recours massif à la mort. La guerre, et donc plus en général la mort, devient des moyens nécessaires et légitimes pour la préservation de la continuité vitale, de la durée des sociétés et de leur progrès. L'autre citation, la dernière, mais je ne vais pas la dire, c'est politique. Pachka marque justement ce point. La guerre, le primat de la vie, c'est l'inverse, étonnamment, mais nécessairement, dans un primat de la mort et de la guerre. Ou pour le dire dans un autre langage, juste suggéré par là, une possible confrontation qu'il faudrait développer, une biopolitique, c'est l'inverse, c'est une thanatopolitique, comme l'ont souligné justement souvent les théoriciens de la biopolitique des différents points de vue. En troisième lieu, si le projet de la vie nue enchaînée à elle-même est la racine dernière de la guerre, pour demeurer explicatif, le paradigme interprétatif de Pachka doit faire place à cet autre terme que nous avons déjà rencontré et qui entretient un rapport ambigu avec le concept de vie, à savoir justement la force. Si l'on ne saurait identifier tout simplement la vie et la force, le prix à payer pour le dispositif théorique de Pachka semble être celui, sinon d'une substantialisation de la vie, au moins d'un dédoublement de celle-ci dans une puissance sur-individuelle et obscure qui agit sur l'homme et dans l'histoire. En d'autres termes, la force n'est pas simplement la vie, mais elle peut apparaître comme son correspondant cosmique et vocal et en présente les traits fondamentaux, enchaînés à elle-même, entièrement vouée à sa propre reproduction, elle est une puissance aveugle qui domine l'action humaine en la déshistorisant. En quatrième lieu, C'est aussi et d'abord par opposition à cette domination de la vie que la solidarité des ébranlés, appelée de ses voeux par Batushka, prend son sens, puisqu'il s'agit, dit Batushka, de ébranler dans leur foi en le jour la vie et la paix. Batushka peut ainsi confirmer de la façon la plus dramatisée l'alternative qui constitue l'histoire, la solidarité des ébranlés et la solidarité de ceux qui comprennent, je cite, que l'histoire est ce conflit de la vie nue, enchaînée par la peur, avec la vie au sommet. J'en viens à la dernière partie, l'ambiguïté de la vie. Je ferai surtout par là indiquer des perspectives et problèmes qui restent pour moi ouverts. Je rappelle d'abord les acquis de notre parcours pour expliciter la portée des analyses de Patrushka. Donc, j'ai essayé de dégager un principe qui régit une partie significative de la philosophie de l'histoire de Patrushka. L'histoire a son sens dernier dans un mouvement rythmique entre l'essor et le déclin, lequel est déterminé avant tout par la capacité d'existence de s'élever au-dessus du plan des impératifs vitaux et dans sa retombée au niveau du projet de la vie nue enchaînée elle-même. Ce principe se fonde à son tour sur une autre thèse, à savoir que le sens dernier du mouvement de la vie est, on pourrait dire serré, celui de la recherche de sa propre conservation et reproduction. Si ce principe régit l'ensemble de la philosophie de l'histoire de Patrushka, il s'enracine cependant dans l'analyse phénoménologique des mouvements d'existence, pour autant qu'ils sont toujours traversés par cette tendance vitale qui s'extensait surtout dans le travail. Ce paradigme permet aussi, peut-être surtout à Patrushka, d'esquisser une puissante interprétation de certains phénomènes de la contemporanéité et par là même de faire apparaître au grand jour précisément ce qui semble se soustraire à la lumière du jour, à savoir la puissante ambiguïté de cette vie dont le mouvement obscur traverse l'histoire. C'est en effet dans les analyses patrushkiennes du monde technique et de la guerre que l'on peut voir que la vie est, pour ainsi dire, puissance des contraires, ou qu'elle est inséparable de ces contraires, à savoir l'artificialité de la technique et la mort, dont elle se sert pour réaliser ses fins au moment où elle parvient à sa plus grande domination historique. C'est le concept des forces qui semble alors constituer les foyers, au moins sémantiques, qui rassemblent les thèmes de la vie, de la technique et de la guerre. La vie elle-même comme force et la force de son mouvement qui impose son titre éternel visant l'autre reproduction. Force de la technique, d'abord parce que dans les sillages d'Heidegger, le Gestell consiste à dévoiler la réalité intérieure comme force, et ensuite parce que la technique, dans ses réalisations concrètes, est elle-même excessive comme force. Force enfin de la guerre, dans son aspect matériel démontré le plus évident, et dans sa capacité de mobilisation totale du réel. Les analyses de Patrushka me semblent cependant garder quelques ambiguïtés essentielles qui montrent la complexité du terrain sur lequel elle se déploie, mais aussi la nécessité d'approfondissement intérieur pour en éclaircir le véritable sens. On n'est pas sûr que ces approfondissements auraient été sans conséquence sur le sens global de ces analyses. Je vais indiquer trois questions strictement liées entre elles. La première, c'est que l'un des intérêts majeurs de l'analyse de Patrushka consiste, comme on l'a vu, dans le fait qu'elle joigne un plan plus strictement philologique et le plan de philosophie de l'histoire. En d'autres termes, ce qui est d'abord relevé comme une caractéristique constitutive de notre rapport incarné et dynamique au monde se trouve ensuite transposé sur le plan d'une interprétation du mouvement historique de l'existence et plus en général du sens de l'histoire européenne. Cette opération présente un avantage théorique majeur et, je dirais, typiquement phénoménologique, puisqu'elle maintient une unité de fond entre expérience et histoire. La philosophie de l'histoire, au lieu de spéculer sur les lois du cours historique, garde un ancrage dans des structures de l'expérience. Une question semble cependant s'imposer. Dans quelle mesure cette transposition est-elle légitime et efficace sur le plan explicatif? Le cercle de la vie dont Patrushka parle pour l'existence demeure-t-il le même sur le plan de l'histoire et peut-il, pour ainsi dire, supporter le poids de l'explication des phénomènes que Patrushka lui impute aussi sur le plan de l'histoire? Une deuxième question, qui ne fait que prolonger la première, concerne précisément le statut théorique et phénoménologique de cette vie qui occupe tant de place dans les analyses de Patočka. Le paradigme théorique mis en œuvre par Patočka essaie d'embrasser un ensemble de phénomènes, mais au prix d'une ambiguïté de fond et qui n'est pas thématisée comme telle de la notion de vie, laquelle semble assumer des faits et différentes figures. Le thème de la vie apparaît d'abord comme une composante d'une description phénoménologique des mouvements de l'existence en termes. Mais qu'il y ait dans les mouvements existentiels un fond vital irréductible visant obstinément sa propre conservation apparaît comme un présupposé jamais vraiment questionné par Patočka. En affirmant qu'il y a un cercle de la vie irréductible et toujours égal à lui-même dans son sens fondamental, n'risque-t-on pas de garder au fond de l'analyse phénoménologique un présupposé naturaliste portant sur l'insertion biologique de l'homme? Si ces risques pourraient être, disons, absorbés dans le cadre d'une description phénoménologique de l'existence incarnée, il me semble se concrétiser au niveau de la philosophie de l'histoire, puisque tous les mouvements historiques seraient constamment hantés par ce fond vital inéluctable et qui peut toujours à nouveau s'emparer de lui. Autrement dit, d'une part, Patočka affirme au début des essais hérétiques que, contrairement à ce que prétend Husserl, il n'y a aucun invariant dans les différents mondes de la vie, qui sont radicalement historiques. Mais d'autre part, s'il y a quelque chose qui apparaît bien comme invariant et anhistorique dans l'analyse de Patočka, c'est précisément ce fond vital et la tendance obstinée qui gouverne. C'est par contraste avec le plan d'une manifestation historique que cette vie risque alors de rester comme un résidu, un présupposé naturaliste et anhistorique. Et enfin, comme je l'ai appelé, dans d'autres analyses patočkiennes, la notion de vie semble basculer de la figure d'une puissance, sinon métaphysique, anonyme ou surindividuelle, qui gouverne l'homme, qui serait l'œuvre de la pression primordiale de la vie, ce qui aboutit au concept de force. Dernière question pour vous rassurer, je l'ai dit vite, il me semble qu'il y a une ambiguïté dans le texte de Patočka entre deux explications du passage de la préhistoire à l'histoire. Une explication plus large, passage d'un sens non problématique à la problématicité, ce qui se manifeste avant tout dans les questionnements philosophiques et de la politique. D'autre part, dans le même texte, Patočka identifie ce passage avec le détachement du plan vital, l'élévation au-dessus de ce plan vital. Ce qui ne me semble pas tranché et clair à partir du texte, c'est si ces deux interprétations s'identifient, donc la problématicité s'identifie avec la rupture du primat de la vie enchaînée elle-même, ou si la deuxième interprétation, la plus restreinte, c'est une composante de la première, ou si c'est, disons, les motifs premiers, les mouvements premiers qui enchaînent un mouvement plus vaste. Il me semble que dans le texte, ce n'est pas décidé. Malgré ou grâce à ces ambiguïtés, la réflexion de Patočka nous aura donné un puissant éclairage sur les liens entre histoire et vie, et nous aura introduit plus profondément aux ambiguïtés de la vie elle-même, qui se lit de plusieurs façons et au contact de l'histoire, se diffracte de la multiplicité de ses figures. Merci et désolé pour la longueur.